Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Laura Pouliken et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast L'Aléa, le podcast pour sortir de votre zone de confort. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a osé dans sa sphère personnelle ou professionnelle pour vous inspirer à faire de même. Ici, le contenu est bienveillant, rassurant et inspirant. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en parlant de lui à un proche qui aurait besoin d'un coup de boost, mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Vous pouvez aussi partager votre épisode préféré en story Instagram en mentionnant le compte lalea.podcast et par la même occasion découvrir la communauté d'audacieux autour du podcast. Si je vous dis échappée belle, vous me dites paysage extraordinaire, bien sûr, mais aussi présentateur iconique. Sophie Jovillard, Ismaël Khalifa et Jérôme Pitorin, à qui j'ai eu le plaisir de tendre mon micro pour cette interview ô combien enrichissante. Ensemble, nous évoquons sa carrière de journaliste, réalisateur, photographe et animateur de programme, son déclic pour embrasser ce monde, ses nombreuses expériences, ses secrets de réussite, les coulisses de l'univers audiovisuel et de l'émission Échappée Belle, ses rituels de déconnexion. On évoque aussi les problématiques de gestion de l'image et de confiance en soi dans les métiers exposés ou encore l'équilibre vie pro-vie perso. Nul doute que vous devinerez ma passion pour le journalisme à travers cette interview et que vous tomberez amoureux de cette personnalité généreuse, humble et engagée. Je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien, bonjour Jérôme.
Bonjour Laura.
Rebonjour, après cette brève introduction off, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur mon podcast. D'abord, j'ai une question très simple. Qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté du micro et que ce n'est pas vous qui posez les questions?
C'est toujours... ce n'est pas l'exercice que je préfère, parler de moi, mais en même temps, j'ai dû, par la force des choses, depuis quelques années maintenant, apprendre à le faire et à le faire derrière un micro et à le faire aussi dans d'autres circonstances également. Donc, voilà, je me fais un petit peu l'exercice. Je trouve ça amusant.
D'accord. Ouais, c'est sympa aussi de découvrir Jérôme. Justement, moi, en faisant mes recherches, j'ai toujours l'habitude de faire beaucoup de recherches sur mes invités quand je prépare des interviews. Et bizarrement, j'ai pas trouvé énormément de choses sur vous. Quelques portraits vidéo, quelques articles, mais vous semblez quand même plutôt discret. Donc, est-ce que, bien sûr, pour ceux qui vous connaissent, bon, voilà, ce sera une redite. Mais pour ceux qui vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter en fait avec vos mots à votre façon?
D'accord. Ça m'étonne que vous n'ayez pas trouvé grand-chose, parce que je crois qu'il y a quand même pas mal de choses, de papiers, d'interviews, de choses qui doivent être données. Après, c'est vrai que je ne me réponds pas énormément non plus dans la presse, excepté pour parler de mon travail.
Oui, mais, voilà, j'ai trouvé énormément d'interviews sur Échappée Belle, mais sur
moi,
le parcours,
et...
voilà, ah, moi, oui. Ma vie, mon œuvre, un peu moins en fait.
Oui, c'est vrai, pour les raisons dont je parlais tout à l'heure, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de me répondre forcément, et puis quelques fois on m'a fait des sollicitations pour faire de la presse dite people avec mes enfants ou autres, c'est toujours des choses que j'ai déclinées.
Bien
voilà,
sûr, je
ne mets pas vraiment en avant ma vie personnelle et mais pas vraiment en avant non plus mon image en tant que telle. Sur mes réseaux sociaux, c'est souvent plus des photos de paysages ou des photos de des gens que je croise, plus que des selfies de moi que vous trouverez
bien sûr
au large, voilà.
Et est-ce que vous pouvez vous présenter du coup en quelques mots?
Alors moi, j'ai 49 ans. Je suis à la fois journaliste, réalisateur. On va parler juste de mon activité, mais je suis aussi intervenant pour une école de journalisme. Je suis photographe, plein de choses. J'aime bien faire plein de choses. Donc, on va dire plus largement, voilà, journaliste, réalisateur
D'accord.
et animateur aussi de programme pour
Plusieurs,
la télévision.
casquettes donc. J'aime bien faire des retours en arrière pour comprendre qui étaient mes invités quand ils étaient petits, parce que je pense qu'il y a énormément de choses qui se passent dans l'enfance sur la construction aussi d'une personne et d'une identité, d'une façon d'être. Donc, est-ce que vous pourrez revenir un petit peu avec moi sur le Jérôme enfant, le Jérôme petit garçon? Quel petit garçon étiez-vous et qu'est-ce que l'on disait de vous?
Alors, tout dépend à quel âge.
Alors, on va dire 6-7 ans.
6-7 ans, j'étais, je pense, un petit garçon jovial, un petit garçon, ouais, jovial, enthousiaste, un peu casse-cou, plutôt taquin et rigolo, et en même temps très sensible et très et timide aussi. C'était un mélange de tout ça. La timidité s'est même accrue un peu plus tard, mais je pense que j'étais voilà un enfant plein de vie.
Et est-ce que vous aviez une idée à cette époque de ce que vous vouliez faire, comme parfois peuvent avoir les petits garçons, ou c'est venu bien après?
Non, non, j'ai pas de rêve d'être pompier ou d'être pilote d'avion. Non, pas vraiment. En fait, c'est pas quelque chose qui me préoccupait. Et j'ai pas eu vraiment comme ça une envie, une vocation qui se serait imposée plus tard. J'ai pas vraiment ressenti ça. C'est venu beaucoup plus tard, à l'adolescence, en fait. J'ai commencé vraiment à réfléchir à ça et à voir ce qui m'intéressait, quelles étaient les choses qui me plaisaient. J'ai toujours été très attiré par la musique, alors peut-être que la musique pouvait être quelque chose qui aurait pu être un objectif ou une volonté. Peut-être plus tard de pratiquer ou d'en faire un métier à terme, mais en dehors de ça, non, j'ai pas trop de souvenirs. Je faisais du sport aussi, beaucoup de sport, donc je me voyais pas forcément champion, non, j'avais pas encore de rêve fou à cette époque-là.
Ouais. Et qu'est-ce que faisiez vos parents?
Mes parents travaillaient, alors mon père avait commencé en tant qu'ouvrier, il était à la fin de sa carrière directeur de production d'une usine qui fabriquait du mobilier de bureau dans un groupe qui avait des établissements dans la ville où je suis né. Et ma maman travaillait aussi longtemps dans cette entreprise, elle au bureau des achats. Et ensuite, tous les deux, l'entreprise a fermé, donc tous les deux se sont dirigés vers d'autres branches pour la fin de leur parcours professionnel.
D'accord.
Voilà, jusqu'à leur retraite.
Personne dans le journalisme, dans votre famille, de près ou de
Non.
loin? Non.
Non, personne là-dedans. Non, non, je n'avais pas du tout de personne autour de moi qui faisait ce métier. Non, pas du tout.
Et justement, vous disiez que la passion était venue plus tard. Vous étiez encore au lycée lorsque vous écriviez déjà vos premiers articles publiés dans la Nouvelle République du Centre-Ouest. Alors c'est à ce
Ouais.
moment-là que l'écriture est devenue une passion, un hobby, et que vous avez pensé au journalisme.
En fait, je cherchais des petits boulots pour faire. En fait, on va dire qu'au lycée, c'est vrai que j'ai commencé à. J'avais un prof de français qui avait ouvert un atelier vidéo comme ça. J'y suis allé pour voir parce que ça me. J'étais très téléphage, donc j'en ai beaucoup bouffé de la télé et ça me plaisait bien. Et puis finalement, j'ai voulu faire cet atelier, ça m'a plu. Je me suis amusé avec ça. Et c'est vrai que c'est à peu près à la même période que je me suis dit, ah, c'est peut-être marrant de faire des petits boulots, mais plutôt que d'aller, je sais pas, faire la plonge du service quelque part, chose que j'ai faite aussi, mais j'ai commencé à proposer mes services pour aller faire des piges pour un journal régional. Je faisais des piges tous les week-ends, j'allais suivre les manifestations sportives et je revenais taper ça à la machine. Chez moi, avec le coup de main de mon père qui avait déjà une bonne plume, qui a toujours une bonne plume. Et c'est plus, ouais, ça a commencé comme ça, mais j'avais pas l'impression vraiment de faire du journalisme, mais j'ai appris la photo un petit peu, les bases de la photo à ce moment-là. Et ça m'a en effet plu, surtout d'aller à la rencontre des gens et d'aller les questionner. C'est plus ça qui me plaisait que d'écrire en soi. D'ailleurs, j'ai fait assez peu de presse écrite. J'ai collaboré à de rares ouvrages, je sais pas, même ça se compte sur les doigts d'une main, je pense, en écriture. Globalement, c'est plus la rencontre et par l'image ou par l'audio avec la radio que j'ai faite un peu plus tard aussi, qui m'a intéressé à ce moment-là.
D'accord. Ok. Et justement, vous avez fait l'école de journalisme à l'université du Futuroscope, si je me trompe pas et si mes sources sont bonnes.
Exact.
Du coup, c'était à ce moment-là, vous saviez que vous souhaitiez devenir journaliste. Vous avez, enfin, c'était un choix qui était délibéré ou pas. Enfin, c'était à ce moment-là, en fait, qui s'est produit le déclic quand vous êtes rentré à l'école de journalisme.
Alors en fait, c'était pas vraiment une école de journalisme, c'était une école
D'accord.
un petit peu hybride,
Ouais.
en fait, c'est une filière qui avait ouvert à cette époque-là, qui dépendait de la fac de Poitiers, mais dont les cours se tenaient au Futuroscope. C'est une filière un petit peu hybride parce que il y avait des matières qu'on retrouve pas forcément dans les cursus de journalisme. Donc je faisais de la linguistique, je faisais de la sémiologie, je faisais de l'histoire de l'art, je faisais de la vidéo. Je faisais la communication, les langues, etc. Et différentes matières qui tournaient autour du cinéma, autour de la langue et de la langue française et de ses usages, la façon voilà, donc bien communiquer en tout cas.
Oui.
Et j'avais des intervenants qui venaient de partout en France. Et cette filière était très chère pour la fac et c'est pour ça qu'elle n'a pas duré très longtemps. Je crois qu'elle a dû fermer après ma promo. Mais c'était intéressant parce que je me suis retrouvé avec des artistes plutôt, des gens voilà, qui faisaient du ciné, de la photo, qui faisaient des choses très créatives. Moi, j'avais ça au fond de moi, je l'ai compris après, on va dire, intérêt à la création, quelle qu'elle soit. Et du coup, je me suis retrouvé bien dans cet élément-là. Et en plus, bah, je touchais quand même à des choses qui m'intéressaient, comme la vidéo, la photo, comme évidemment... savoir ré rédiger aussi, c'était très intéressant. Il y avait une vraie émulation, il y avait des vrais talents autour de moi
Ouais.
qui me permettaient aussi de me laisser aller à des choses que j'aurais pas, peut-être pas en tout cas goûté auparavant. Donc c'était une école où il y avait à la fois de l'artistique, à la fois on va dire du côté plus journaliste, et ce mélange m'allait bien en tout cas.
Ouais. Et c'est à la sortie de ces études-là que vous avez commencé la radio?
Alors la radio, j'en ai fait avant. J'en ai
Avant,
fait quand
ok.
j'étais au lycée et pendant ces périodes-là, voilà, je collaborais à une radio dans ma ville et ensuite à une autre radio que je peux citer qui s'appelle Colline FM qui existe toujours d'ailleurs, qui est une radio locale d'envergure quand même assez importante en termes de rayonnement dans tout le nord de mon département.
Ouais.
Et ensuite, par la force des choses, j'ai donc collaboré à cette radio. Mon papa s'est retrouvé à être président bénévole de cette radio pendant des années. Elle a développé et c'était plutôt amusant d'être passé par là auparavant. Et j'ai fait quelques stages à Radio France, à La Rochelle notamment. Mais globalement, j'ai assez peu pratiqué la radio en fait. Je me suis retrouvé pour valider mon cursus à devoir faire un stage et j'ai choisi de faire un stage dans le domaine que je connaissais pas encore. J'avais fait la presse écrite et un peu de radio.
Ouais.
Je voulais connaître la télé. Voilà. Donc, j'ai fait une demande de stage dans les différentes chaînes. Et puis, j'ai été pris à TF1. Je suis rentré, je crois que c'était en 93, je crois, quelque chose comme ça.
Ouais.
Voilà. Et de ce stage, finalement, on m'a gardé. Et je suis jamais reparti.
Moi, je suis chroniqueuse sur une radio locale. C'est vraiment un exercice que j'aime beaucoup. Donc, c'est chouette. Vous diriez que vous étiez ambitieux à cette époque, déjà?
Je sais pas vraiment si je suis ambitieux.
Ouais.
J'avais des envies, mais pas des envies de carrière, pas des envies de notoriété. J'avais des envies de découvrir des choses, de faire plein de choses différentes dans mon métier. Ce qui s'est avéré être le cas au fil du temps, hein, parce que je suis rentré, j'étais assistant en réalisation, assistant de production et journaliste junior. Donc j'avais trois casquettes, je faisais trois trucs en même temps. Et puis en finalité, je suis devenu un peu plus journaliste junior, puis journaliste tout court. J'ai commencé à faire des reportages. Après ces reportages, j'ai commencé à faire différents programmes. J'ai commencé à faire de l'antenne, mais plutôt dans un domaine de l'humour et du décalé. Et puis au fil du temps ensuite, je suis passé sur M6. Et là, j'ai développé des programmes. J'ai fait des adaptations. J'ai commencé à réaliser. J'ai commencé à devenir rédacteur en chef, puis producteur de programmes. Et puis, etc. Puis j'ai continué à nouveau à faire de l'antenne. Et au fil du temps, voilà, j'ai aussi été monteur. Donc j'ai pu toucher à plein de choses. Et ça, c'était ce que j'avais envie de faire. Mon
Oui.
ambition, c'était pas de d'être une star. Mon ambition, c'était de pouvoir goûter à plein de choses de ce métier. Je me lassais assez vite, finalement, des programmes. Tous les 2 ans, je changeais d'émission, j'allais ailleurs, je me débrouillais toujours. Ou
Oui.
alors on venait me chercher. Donc j'ai eu la chance aussi d'être très souvent sollicité et qu'on vienne me chercher, entre guillemets. C'est pas vaniteux de dire ça, mais on venait me chercher pour me proposer quelque chose que je n'avais encore jamais fait, en fait. Et à chaque
Ah,
fois,
génial.
on m'a fait grandir comme ça parce que des gens ont cru en moi, plus que moi, j'aurais pu avoir l'ambition de me dire, ah, ça, j'ai envie de le faire, j'ai tout faire pour. Non, j'ai eu la chance qu'on vienne me chercher, qu'on me propose ça et qu'on me fasse grandir dans ce métier, de faire des choses très différentes.
Justement, c'est hyper intéressant. On va décortiquer un peu plus un peu plus tard dans l'interview, justement, les rencontres. Pour situer un petit peu, vous avez fait énormément de choses. Voilà, aujourd'hui, bien sûr, vous êtes le présentateur phare d'Échappée Belle.
Non, non, on est trois. On est
Oh
trois à
oui, vous êtes
présenter.
trois, bien
On
sûr,
est
oui.
trois.
Vous êtes
C'est
trois.
Sophie. C'est Sophie qui est là, qui était là avant moi, et c'est Sophie
D'accord, bon.
qui est l'historique, on va dire. Non,
Ok,
mais
vous
on est
êtes
dû à
un
ça.
des présentateurs, voilà,
Voilà, ça fait
d'Échappée
11 ans.
Belle.
Ouais.
Vous avez fait beaucoup de choses, vous êtes passé par beaucoup de chaînes. Vous avez notamment, pour rappeler à nos auditeurs, rejoint le télécrochet Nouvelle Star pour interviewer les candidats, été chroniqueur sur TF1 pour l'émission Méfiez-vous des idées reçues. Vous avez travaillé auprès de Stéphane Bern pour une saison du Village préféré des Français. Je ne vais pas vous demander de refaire votre parcours parce que ce serait beaucoup trop long, mais peut-être des moments déterminants dans votre carrière avant d'aborder un petit peu plus en détail quelques points qui me semblent importants.
Alors, je veux dire que le premier moment où ça a commencé à twister, dans le sens où j'ai eu envie de partir d'où j'étais, parce que finalement, on m'exploitait un petit peu à me faire faire plein de choses différentes quand j'étais à TF1 et je bossais pour un programme avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine qui s'appelait Il n'y a pas photo, je crois. Et voilà, et j'ai commencé à faire des petites chroniques pour eux, chroniques qui s'avéraient mieux marcher en termes d'audience, parce que l'audience était très très décortiquée à TF1 à la seconde près presque. Que leurs propres chroniques à eux, ils m'ont pris un peu en grippe. Et puis ça, nos rapports étaient pas très bons. Comme moi, je voulais plus faire du journalisme plutôt que de faire le guignol. Eh bien, je me suis barré et je suis allé après chez Arthur. Voilà, j'ai commencé à bosser pour Exclusif où là, on m'a permis de faire des reportages. Et je faisais deux, trois reportages par semaine pour une quotidienne. C'était du people. J'allais rencontrer des artistes, des comédiens, des réalisateurs, des chanteurs. J'allais sur les concerts, sur les making-of de films. J'adorais ça. J'adorais cette période. J'avais simplement 3 ans et demi. Et ça aussi, ça a été un vrai moment charnière pour moi parce que ça m'a permis de voir tous les rouages du métier et de l'artistique qui, voilà, qui a toujours fait partie de ma vie, hein. J'ai toujours consommé beaucoup de concerts, de musique, de théâtre. Voilà, je suis un gourmand de tout ça. Et en fait, ça m'a permis aussi de voir l'envers du décor de ce métier-là et de l'apprendre. Et puis, ça m'a permis surtout de commencer à me faire les dents sur des reportages comme ça, tourner, monter en 24 heures, quoi. C'était un peu petite rédaction news de People, quoi. C'était vachement bien. Et j'ai appris beaucoup avec ça, à côté de personnes qui ont après fait d'autres carrières, mais comme Alexia Laroche-Joubert en Angélique Sansonetti qui était près de moi. Mais voilà, dans nos équipes, il y avait Valérie Damidot qui était là, il y en avait plein, on était tout jeunes. On a tous commencé un petit peu à travers ce programme-là et on a passé 4 années à bouger, à traverser un peu l'Europe, voire le monde quelquefois en reportage et à rencontrer des artistes quelquefois pour qui j'avais beaucoup d'admiration, donc ça a été des moments forts. Et puis d'un autre côté, ensuite, voilà, j'ai à nouveau eu envie de faire autre chose, et puis on est venu me proposer des choses pour M6, où là, j'ai changé de production, j'ai quitté Gaz Production, la boîte d'Arthur, avec qui on avait fait différents programmes, pas qu'exclusifs, hein, j'en ai fait un qui s'appelait CIA aussi pour eux, avec Dominique Farrugia et Arthur. Et puis finalement, j'ai basculé sur M6. Chez Fremantle Media et là je suis resté assez longtemps. J'ai fait différents programmes et un jour le bureau à côté du mien où j'officiais c'était l'émission La Nouvelle Star et le producteur est venu me voir au début d'une saison. Il me dit, écoute, Jérôme, on aimerait bien que tu prennes la rédaction en chef du programme. Ah, je dis, ouais, non, ça me paraît énorme, non, c'est trop, ça me paraît trop gros pour moi, j'ai pas l'expérience pour faire ça. Et il a insisté assez lourdement. Et, et finalement, j'ai passé le pas, je dis, allez, ok, on y va, on essaye, si toi tu penses que je vais le faire, on tente le coup, quoi. Et aidé par Stéphanie Bouquerel, l'ancienne rédactrice en chef, qui m'a mis un peu le pied à l'étrier pour me mettre un peu dans ses chaussons à elle. Et puis j'ai eu la chance, voilà, d'être chef de cette émission pendant 2 ans et demi, et d'y faire de l'antenne aussi pour aller faire toujours un peu le guignol, ce que j'ai à peu près fait dans tous les programmes que j'ai pour lesquels j'ai travaillé. Et voilà, c'était la petite récréation, mais c'est aussi une expérience très 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 dense et très forte, parce que j'étais encore dans un milieu qui me plaisait, c'était la musique, et que je rencontrais des jeunes artistes, et que c'est toujours très très émouvant de voir naître des talents comme ça, et de pouvoir les mettre en lumière. Et j'avais une équipe formidable aussi pour bosser avec moi. J'avais une quarantaine de collaborateurs là, les monteurs, les journalistes, les équipes techniques de tournage et tout. Et c'était une vraie petite famille. Mmh. Et ça a été une très belle, très, très belle période, en tout cas, très intense, très, 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 très intense au niveau du travail, parce que les primes, c'était pendant 3 mois, et 3 mois, mais 100 jours off. Hein. J'avais une matinée off par semaine. Donc ça a été très, très, très difficile. Ça demandait beaucoup d'implication et d'investissement personnel, mais ça a été aussi extrêmement fort, d'un point de vue, relationnel, et d'un point de vue aussi, voilà, c'était des moments très, très fort, émouvant. J'ai gardé d'ailleurs du lien avec pas mal d'anciens candidats.
C'était quelle saison? C'était lesquels?
Moi, je suis arrivé sur la saison de Christophe Willem.
Julien Doré.
Et voilà, on a amené une autre façon de choisir les candidats. C'était plus que des voix, mais c'était des artistes qui étaient auteurs-compositeurs la plupart du temps. Et ça nous a amené d'autres types de prestations bien plus riches. Et surtout, voilà, ça a permis aussi, moi, je suis arrivé avec ma petite patte de rigolo aussi, pour essayer de mettre dans les sujets beaucoup plus d'humour et beaucoup un peu de décalage dans tout ça. Et ça fonctionnait plutôt bien. Je crois qu'on a fait des très très grosses audiences à l'époque. On était aux alentours de 6 millions de téléspectateurs, ce que fait souvent The Voice, par exemple, pour donner un exemple en ce moment. Donc, pour l'époque, c'était très bien. Pour M6, en tout cas, c'était des belles années. Voilà. Et suite à ça, voilà, j'ai fait d'autres petites expériences sur des chaînes, notamment TNT, après être parti. J'ai fait un doc pour Canal, et on m'a appelé pour passer le casting d'Échappée Belle. Voilà. Et puis, ben voilà, ça fait maintenant 11 ans que je suis sur ce programme et que je m'y plais beaucoup.
Est-ce qu'il y a une expérience, sur toutes celles que vous m'avez citées, qui vous a permis peut-être de devenir plus expert, plus à l'aise, parce que j'imagine, voilà, que quand on commence, même quand ça fait quelques années, on peut faire des erreurs, on découvre le monde en même temps qu'on travaille, en fait. Et est-ce qu'il y a peut-être une expérience qui vous a vraiment permis de upgrader, on va dire, dans le milieu? Et est-ce que vous avez eu, c'est une question qui est un peu jointe, c'est des mentors, justement, qui vous ont pris sous leurs ailes, pour vous apprendre et pour vous guider, et voilà, et pour être là pour vous, quoi, tout simplement?
Oui, j'ai des gens qui m'ont fait confiance. Je parlais tout à l'heure d'Alexia Laroche-Joubert et d'Angélique Sansonetti, qui était la productrice et rédactrice en chef d'Exclusif. J'avais quasiment pas d'expérience de tournage. Voilà, on m'a fait partir avec une équipe, et puis voilà, j'ai appris vraiment sur le tas. La plupart des métiers que j'ai exercé ou que j'exerce encore, j'ai fait une école de journalisme entre guillemets, mais j'ai tout appris sur le tas. Je suis autodidacte, et je pense que c'est pour moi, c'était la meilleure école. Ça l'est pour tous dans ce métier. Si on veut être un peu transversal, si on veut changer un petit peu d'orientation, c'est beaucoup plus facile que dans d'autres secteurs d'activité, je pense. Donc oui, cette expérience à l'Exclusif a été très forte. C'était une quotidienne sur TF1 en access, prime time, et c'était vraiment, voilà, je sais pas combien de reportages j'ai fait en 3 ans et demi, mais plus de 100, je pense. Et ça, ça a été très formateur pour le côté tournage, côté montage, côté éditorial aussi. Et la deuxième étape, ça a été la confiance que m'a faite Frédéric Pedraza, qui était producteur de La Nouvelle Star. Voilà, mais j'ai aussi Anne-Sophie Larry qui m'a beaucoup aidé, qui est maintenant est au programme direction des programmes d'M6 aussi, et c'est des gens qui, voilà, qui ont su finalement peut-être voir en moi une capacité ou des aptitudes que moi je ne voyais pas forcément. Et on connaît un petit peu le flair de prendre le risque de me mettre dans une fonction qui n'était pas la mienne et dans laquelle je n'avais pas forcément d'expérience. Et voilà, c'est des gens comme ça qui m'ont vraiment permis de grandir, d'apprendre, de prendre confiance aussi, et puis de diriger des grosses équipes. Hein, sur Nouvelle Star, j'ai les journées de tournage, casting, j'avais une quarantaine de personnes à gérer. Et ça aussi, j'avais jamais vraiment fait ça auparavant. Donc différents métiers, différentes personnes à différents endroits dans un même lieu, donc c'était assez extraordinaire et extrêmement stressant aussi. Mais c'était une très bonne école, je trouve, pour se surpasser, en fait.
Ouais.
Voilà, ça obligeait à se surpasser, et c'est grâce à toutes ces personnes que j'ai citées. Voilà, j'ai travaillé après avec plein de personnes, hein, de Christophe, de Chavannes, Jean-Pierre Pernaut, Foucault. Voilà. Mais c'est pas des gens qui m'ont mis forcément le pied à l'étrier directement, en tout cas, personnellement. Arthur un peu plus. Et puis globalement, c'est surtout les gens des prods qui ont cru en moi et qui m'ont permis d'avancer sur mon chemin de mon parcours professionnel, quoi.
Ouais. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de travailler dans le groupe AB Productions. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un vieux groupe.
Mais bon. Bien sûr. Jean-Luc Attré, oui, bien sûr.
Oui, ben voilà, très bien. Bon, j'ai travaillé une petite année là-bas. J'avais une image très glamour quand je suis arrivée. Bon, j'ai eu l'occasion de voir un petit peu plus les coulisses de l'audiovisuel, du monde de la télé. Vous, quel est votre ressenti sur ce monde? Est-ce que vous diriez que c'est aussi glamour que ça en a l'air? Bon, j'imagine que si vous évoluez depuis, je sais pas, beaucoup d'années dans ce monde, voilà, si vous y trouvez plaisir. Mais quel est votre ressenti sur ce monde, tout simplement?
En fait, depuis que je fais Échappée Belle, je suis plus vraiment en contact avec le métier comme je l'étais auparavant, parce qu'avant j'étais dans les prods, j'étais sur Paris, j'étais en contact avec des gens, je choisissais mes équipes, je pouvais avoir une connexion directe avec ce milieu-là. Ça fait donc 11 ans que je suis plus du tout dans ce métier, en quelque sorte, même si je suis toujours à la télé. Donc, je suis un peu déconnecté de tout ça, je le vois d'un peu loin, en tout cas. À l'époque, moi, toute l'époque, même jusqu'à M6 et Nouvelle Star, ça a été vraiment... pour moi, tout était possible à ce moment-là, la télé. Il était encore possible de faire des programmes, de créer des choses. On laissait du temps quelquefois aux émissions pour s'installer. Je me souviens quand Plus belle la vie était lancée sur France 3 et tout le monde disait ouais, qu'est-ce que je fous une série comme ça, ça marchera jamais. C'est encore à l'antenne, je parle de 20 ans plus tard. Et ça, aujourd'hui, ce serait plus possible, en fait. Ce serait plus possible de lancer des programmes. Il n'y a plus de prise de risque comme auparavant. Les programmes dits originaux, c'est-à-dire qui n'existent pas ailleurs, qui ne sont pas des formats qu'on n'achète pas, qui n'existent pas dans un autre pays et qu'on adapte chez nous, il n'y en a quasiment pas en télé maintenant. Il n'y en a quasiment plus. Cette prise de risque n'existe plus. Ce n'est pas faute d'avoir proposé depuis des années des tas d'émissions à ma propre chaîne ou ailleurs pour voir que les gens ne misent pas forcément sur les choses comme ça. Et ou alors, faut être un cadre de l'antenne pour pouvoir avoir... accès à ça et être producteur, animateur et tout ça. Et finalement, je trouve qu'il y a moins de créativité. Heureusement que les documentaires ou les séries comme ça de fiction redeviennent beaucoup plus exploitées, produites, diffusées grâce aux plateformes également. Ça a permis aussi à ces formats-là de revenir, mais globalement, je trouve que sur le programme natif de télévision pure, de flux, comme on dit, c'est pas très inventif, quoi. Ou quand c'est inventif, on ne donne pas sa chance au programme, même sur des courtes séries, et je trouve ça assez dommage. Voilà, je trouve ça assez dommage, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont plein de talents et plein de belles émissions dans les cartons ou dans les tiroirs, et que ces émissions ne verront peut-être jamais le jour. Alors voilà, est-ce que maintenant la télé, il faut ne plus l'envisager comme ce grand écran qu'on a dans notre séjour, et plutôt se diriger vers des plateformes de diffusion, voilà, plus sur Internet et faire ses propres programmes comme ça. C'est pas la même économie, donc il faut aussi, voilà, c'est difficile de faire un joli programme et d'y mettre les moyens techniques pour que ce soit réussi avec l'économie que proposent certaines plateformes ou Internet, mais c'est sans doute en tout cas une des voies à suivre pour la jeune génération qui voudrait faire ses propres programmes en tout cas.
Non, c'est clair, c'est une grande question ça depuis quelques années. J'avais aussi envie de parler de vous avez créé une société de production, ça s'est fait production en 2004. Est-ce que c'était déjà en quoi consiste le métier de producteur pour qu'on s'imagine bien? Et est-ce que pour vous c'était une étape naturelle de produire? Parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de journalistes quand même qui se mettent à produire.
Alors en fait, c'est rigolo parce que cette boîte de prod, je l'ai montée avec mes deux meilleurs amis de l'époque, toujours, qui le sont toujours, hein, mais à l'époque en tout cas, on travaillait ensemble encore. C'est plus le cas maintenant, on a du mal à se retrouver sur les projets ensemble. On avait monté cette boîte pour faire un petit peu ce qu'on avait envie, quoi. On avait envie d'essayer de proposer des sujets, des reportages, voire des émissions, de tourner ensemble encore plus. Et c'était vraiment un moyen de travailler tous les trois ensemble sur les mêmes émissions, les mêmes projets, et pas seulement deux d'un côté ou un sur un autre programme, d'être vraiment tous les trois ensemble. Donc on a monté cette boîte de prod principalement pour ça. On a fait pas mal de choses pour, on va dire, des marques, pour des enseignes, et assez peu en télé finalement. On a vendu assez peu de choses en télé, mais ça a été pour nous l'occasion, voilà, pour travailler ensemble. Et l'argent qu'on a gagné avec ça, on l'a toujours laissé dans la boîte. C'était toujours le moyen de racheter du matériel. Voilà, on s'est jamais payé aucun dividende. Je sais pas combien de temps la boîte a vécu, mais voilà, on n'était pas là pour gagner de l'argent en fait. On était là pour travailler ensemble et pour développer nos propres projets, essayer de kiffer, quoi, de faire des choses qui nous plaisaient.
D'accord.
Ça a été ça le but. Et depuis que moi j'ai rejoint Échappée Belle, j'ai quasiment plus de temps de m'en occuper. Et on a laissé tomber la boîte parce que il faut quand même s'en occuper un minimum et qu'on était plus très pris.
Ouais, bien sûr. J'ai une question quand même qui me taraude, et après on parlera un petit peu d'Échappée Belle. Vous animez aujourd'hui une émission qui est connue, qui est reconnue, que moi personnellement j'adore, que je regardais depuis petite avec mes parents.
Depuis petite, ça va pas me rajeunir tout ça.
Depuis adolescente. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai dit à mon père que je vous interviewais, il a limite préparé des questions à ma place, voilà. j'imagine que les places sont rares. La question, c'est quels sont finalement, en fait, pour vous, les secrets de votre réussite, finalement? Est-ce que vous diriez que c'était le fruit de rencontres ou plutôt un plan qui était préparé sur quelques années?
En fait, déjà, j'aurais du mal à dire que c'est une réussite, parce que je trouve ça très prétentieux et que je n'ai pas l'impression. La réussite, pour moi, c'est une notion un peu bizarre. Voilà, réussite, ça veut pas dire voilà avoir de la notoriété, ou pour moi ça c'est pas une réussite. Réussite, c'est faire quelque chose qui nous plaît, dans lequel on s'épanouit, et je sais pas si une carrière, je sais pas ce mot non plus, mais enfin bref, sur une trentaine d'années presque maintenant que je fais ce métier, c'est d'avoir pu faire ce métier pendant 30 ans. Je pense que ça c'est une première chose qui pour moi est un vrai cadeau, de pouvoir continuer à faire ce métier. J'ai jamais eu de plan en fait. Je suis un instinctif, moi. Je suis quelqu'un qui fait les choses au feeling. Je suis un épicurien. Je fais les choses vraiment comme je les sens. Et je suis un peu casse-cou. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on me proposait de prendre des postes que j'avais jamais encore eu l'occasion d'occuper, j'hésitais un peu, mais au final, à chaque fois, j'y allais. À chaque fois, j'ai dit oui. Donc, je me suis souvent mis en difficulté, entre guillemets, dans un inconfort, pour pouvoir. Je sais que vous aimez souvent parler de cette zone de confort et d'en sortir. J'ai souvent, et ça a été finalement ça la clé pour moi dans mon parcours professionnel, ça a été de dire oui et d'y aller sans savoir si j'étais capable de le faire. Mais j'avais juste confiance en ma force de travail. J'étais pas trop bête, j'étais un petit peu expérimenté, je sens bien les choses. Voilà, je pense que j'ai un bon feeling, je ressens bien les gens et voilà, cette conjonction de choses a fait que ça m'a permis d'avancer et j'ai jamais eu un plan et j'en aurai jamais. C'est pas, je fonctionne pas du tout comme ça. Voilà, je suis quelqu'un qui peut avoir les choses presque au jour le jour. Dans mon boulot, voilà, j'essaie de vivre les choses comme elles viennent, de les accueillir, de faire de mon mieux. Et ça m'a, oui, ma force de travail, je pense, a été aussi une clé importante parce que ouais, j'ai beaucoup taffé, quoi.
Ouais, bien
Et
sûr.
je rechignais pas à la tâche. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, quand vous faites Nouvelle Star et que vous êtes 3 mois sur les primes et que c'est 7 jours sur 7 pendant 3 mois. Quand vous sortez des 3 mois, vous êtes bien rincé, mais en même temps, vous avez tellement pris votre pied à faire ce boulot-là avec les gens que vous avez choisis autour de vous que c'est voilà, c'est une douleur presque agréable, j'ai envie de dire. Et donc globalement, j'ai jamais rien planifié. Je suis comme ça à l'instant et comme je disais tout à l'heure, j'ai tout le début de mes premières années de travail pendant 15 ou 20 ans. Je changeais de programme tous les 1 ou 2 ans, quoi. J'allais voir ailleurs tout le temps, quoi. Je restais pas en place. Et non, j'ai jamais été très courtisan non plus dans ce métier. Je sais que ça peut aider de passer de la pommade. Je suis plutôt une grande gueule et je suis plutôt quelqu'un d'assez cash. Donc ça m'a joué des tours évidemment, mais globalement, je regrette pas à chaque fois si je me suis barré ou si voilà, je n'étais pas d'accord avec ce qu'on voulait me faire faire ou autre chose, ça rentrait pas dans mes valeurs ou dans un respect minimum que j'attendais, et ben je me suis barré ou j'ai fait autre chose. Donc ça aussi, j'ai toujours eu cette petite intransigeance à ne pas déroger à cette règle en fait.
Ok, et Échappée Belle, vous diriez que c'est quand vous êtes arrivé justement sur l'émission, c'était en 2010, ça a été créé en 2006, donc 3 ans après, 4 ans après, vous diriez aujourd'hui que c'est l'émission de votre vie?
Bah, elle a pris déjà une bonne part, elle a pris un tiers
C'est
de mon
ça,
parcours professionnel.
c'est
Donc,
l'émission dans laquelle vous êtes resté le plus longtemps.
ouais, exactement, à ma grande surprise d'ailleurs. Oui, c'est une émission qui a marqué mon parcours et qui marque encore mon parcours. Oui, je pense que ça va être l'émission de ma vie. Il y en a assez peu finalement d'émissions qui m'ont marqué. Je vous les ai citées, hein. Des émissions en tout cas qui ont été importantes pour moi. Exclusif sur TF1, Nouvelle Star et Échappée Belle, évidemment. Évidemment que c'est une émission qui marque parce que au-delà de faire de la télé, évidemment c'est un programme quand on le regarde aussi c'est formidable. Il est en vacances tout le temps. Il y a un petit peu de boulot quand même derrière et des équipes qui œuvrent avec talent autour de nous, que ce soit à la prod, ou à l'action ou en tournage. Et que finalement, oui, c'est un beau programme parce que je pense que ça m'a fait grandir à nouveau, mais pas uniquement professionnellement, ça m'a fait grandir en tant que personne, de pouvoir rencontrer toutes ces personnes.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Inspirante, touchante, qu'il soit, je sais pas, berger au fin fond de la Roumanie ou pêcheur en République dominicaine ou quels que soient les gens que j'ai pu rencontrer, aussi modestes soient leurs conditions, j'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup finalement
Nourri
découvert, ouais, nourri de ça, de la beauté de ces gens et de leur simplicité et de leurs valeurs et de leur bonheur, si c'est des gens qui sont très heureux finalement, même s'ils n'ont pas toujours grand-chose. Et ça m'a toujours touché, ça m'a permis aussi de me recentrer, ça m'a permis de voir et de remettre en question un petit peu ma condition aussi, de dire, t'as pas de plainte, hein, franchement. Voilà, et au-delà de ça, ben, on est quand même payé pour voyager, traverser le monde, voir les plus beaux lieux que la planète abrite. Donc ça aussi, c'est fort. Et puis on apprend plein de choses parce que on découvre des civilisations, on découvre des peuples, on découvre des coutumes, on découvre voilà toute une histoire d'un pays à travers des rencontres, à travers des lieux, du patrimoine bâti, le patrimoine naturel également. On a vraiment une ouverture finalement au monde qui nous enrichit de plein de connaissances et de plein de rencontres. Et ça, c'est vraiment pour moi un cadeau exceptionnel, quoi.
L'autre jour, je re-regardais l'émission que vous avez tournée à Oman pour me réimprégner quelques jours avant l'interview. Dans chaque épisode, en effet, vous nouez des liens très forts. Est-ce que vous, y a une suite derrière? Est-ce que vous arrivez à garder contact?
Bah oui, je garde contact avec bon nombre d'entre eux quand même. Par exemple,
Ouais.
à Oman, Abdallah, quand on y est retourné faire une seconde émission, on l'a retrouvé, il était à nouveau avec nous. Voilà, on s'envoie des petits messages de temps à autre comme ça. Je lui ai envoyé un petit message quand le bouquin est sorti là, à la fin d'année, puisque je parlais de lui à ce moment-là. Oui, je garde des liens avec les gens. Après, je garde pas des liens avec tout le monde, parce qu'évidemment,
Bien sûr.
on a des gens avec qui on passe plus de temps, donc l'affinité et le lien n'est pas le même que quand on passe une petite journée avec quelqu'un. Et puis, il y a aussi une question de feeling. Et puis, mais malgré tout, ouais, il y a plein de personnes avec qui je suis en lien dans plein de pays. Je pense qu'au moins une personne par pays avec qui j'ai gardé un lien, je crois. Et puis j'en ai évidemment en France, c'est encore plus facile. Donc oui, des gens. Il m'est arrivé de retourner dans certains pays en voyage et de m'arranger pour essayer de revoir les gens avec qui j'avais pu passer du temps au moment du tournage. Ou inversement, il y en a certains qui viennent à Paris. Mon camarade Ricardo du Pérou, avec qui j'ai passé des moments formidable, qui m'a encore envoyé un message avant-hier. C'est des gens, voilà, quand il est
C'est
venu à
génial.
Paris, on s'est appelé, on s'est vu, on est allé manger ensemble avec son épouse, et ça, pour moi, c'est, oui, c'est
Ouais,
du
il y a une
bonus, quoi.
suite, quoi.
Ouais, pas.
Le voyage, c'était une passion depuis toujours, ou c'est une passion finalement qui s'est un peu, enfin, qui s'est révélée avec l'émission?
En fait, je voyageais, mais pas vraiment au sens voyager comme on peut le faire aujourd'hui, en fait. J'ai fait mon vieux schnock, mais il y a 30 ou 40 ans, le prix d'un billet d'avion n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on peut prendre un vol pour l'Europe pour 30 balles. À l'époque, c'était pas le cas. Mes parents n'avaient pas forcément les moyens. C'était pas dans leur culture non plus de beaucoup bouger. Donc voilà, mes vacances, les voyages, c'était les vacances, en fait. Donc c'était aller pas très loin, à 100 km de chez moi, sur la côte vendéenne, ou dans l'île de Ré, où j'ai passé tous mes étés à faire du camping. Ou alors, ma grand-mère avait quelques années plus tard une petite maison, enfin, une grande maison d'ailleurs, en Espagne, sur la Costa Blanca. Et tous les étés, on partait, moi et mes cousins, cousines, on partait 2 mois là-bas. Et donc c'était les seuls voyages, en fait, que j'avais fait, quoi. J'avais dû traverser une fois la frontière pour aller en Suisse ou en Italie, et voilà. Donc j'étais pas un voyageur backpacker à partir comme ça. Et quand j'ai commencé à gagner ma vie, j'ai commencé un peu à voyager. Donc voilà, j'ai pu aller au Maroc, j'ai pu aller en Tunisie, j'ai commencé à prendre, voilà, des vols, sans aller au long cours vraiment. Mais j'ai pris goût à ça, en effet. Ouais, j'ai pris goût à la découverte, mais c'était quand même toujours dans le cadre de vacances. Et c'était souvent pour une semaine, rarement deux. Donc quelquefois, c'était des vacances plutôt repos, un peu découverte, voilà. Mais c'était pas, je partais pas 3 mois avec un sac à dos à arpenter tout un pays en autostop. Ça, je l'ai pas fait. Je pense pas que je suis pas un voyageur. J'aime pas voyager seul, en fait. C'est pas quelque chose qui me parle de partir tout seul. J'adore la rencontre, mais j'aime aussi partager. j'ai besoin de partager en fait quelque chose avec avec quelqu'un. Donc je pars pas en vacances tout seul. Ça c'est un truc pour moi, c'est pas possible. Donc voilà, on peut toujours rencontrer des gens en effet.
Ouais.
Mais c'est aussi partager au jour le jour des choses et quand on est en vacances, ceux qu'on rencontre sur place sont pas à notre disposition pour aller faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc voilà. Et non, j'ai pas. Je suis devenu voyageur. J'apprécie et j'ai appris à découvrir le plaisir de voyager, le plaisir de découvrir, l'envie de voilà de sortir des sentiers battus, de m'essayer à plein d'activités grâce à l'émission évidemment. Activité que je n'aurais jamais pu faire avant, sans doute. Si je n'y avais pas été, entre guillemets, pas contraint, mais si on ne me les avait pas proposé, je ne me serais pas dit, ah ouais, je vais faire un saut en parachute, ah ouais, je vais faire un saut élastique, ah ouais, je vais faire du bobsleigh, ou je ne sais pas quoi, de la plongée avec les requins. Ça ne me serait peut-être pas venu comme ça. Et finalement, si, j'ai pris goût à ça, quoi. Et donc, je suis devenu voyageur, en fait.
Ouais. Et vous partez combien de temps pour une émission?
Alors, en gros, on est entre 8 et 9 jours sur place.
Donc ah oui, c'est peu quand même.
La journée de transport avant,
ouais,
et de retour. Quelquefois, ça peut être un peu plus long parce qu'on veut aussi se ménager d'éventuelles intempéries. Donc, on a ce qu'on appelle le weather day, qui est la journée météo en plus. Voilà, une journée qui est une journée bonus. Donc, quelquefois, on peut partir 12 jours, quoi.
Toute l'équipe en même temps, parce que je sais que rendez-vous en terre inconnue, par exemple, il y a les caméramans qui viennent avant.
Non, il n'y a pas de repérage sur
place. Là, il n'y a pas de repérage sur...
Zéro repérage sur place. Quand on débarque, on débarque ensemble. Il y a deux équipes, hein, dans Échappée Belle. Il y a une équipe qui suit l'animateur ou l'animatrice. Donc, il y a un réalisateur qui fait l'image. Il y a un ingénieur du son. Il y a un assistant qui s'occupe de la logistique et du matériel, entre autres, et de la régie, plein d'autres choses. Il y a une seconde équipe qui, elle, fait ce qu'on appelle, nous, les sujets. Et les sujets, c'est les reportages qu'il y a entre les séquences avec les animateurs, où il y a une voix off, et où là, on est dans un reportage de plusieurs minutes. Donc, c'est une seconde équipe avec un JRI et un assistant aussi. Donc,
d'accord. Ils sont deux.
Et eux, ils tournent souvent à peu près en même temps que nous, mais dans des lieux tout à fait différents des nôtres la plupart du temps, donc on se croise pas forcément sur le tournage entre les sujets et les plateaux, comme on dit.
D'accord. Vous, la partie visible de votre job sur cette émission, c'est l'animation. Ouais. Est-ce que vous intervenez sur d'autres aspects en gros, quel est votre travail en fait autour de cette émission?
Ça va changer un peu là, parce qu'on essaie vraiment d'être de plus en plus en amont du travail éditorial. Pour pouvoir faire des choses qui nous parlent plus ou aller plus vers des sujets ou des intervenants qui seraient plus dans nos affinités ou nos intérêts. Et globalement, il y a une équipe de rédaction qui prépare l'émission, qui choisit donc la production, choisit les destinations et nous les impose. C'est pas les animateurs qui décident d'où ils vont. Ensuite, on a un planning avec des destinations et puis une rédaction qui, c'est une journaliste ou un journaliste qui prépare, qui enquête, qui cherche des thématiques. Voilà, en temps en temps, on peut suggérer des choses en termes de thématiques, de lieux ou de personnes, quelquefois, si on a des contacts. Et le gros du travail est fait par la rédaction, qui nous prépare tout un programme. Ensuite, nous, on arrive sur place, on sait qui on va rencontrer, on sait à peu près ce qu'on va faire avec cette personne, et c'est à nous de fabriquer, entre guillemets, la petite histoire qu'on a un petit peu rêvée et mise sur le papier pour qu'elle soit au plus proche de ce qu'on avait imaginé. Et donc, après, sur place, on improvise, entre guillemets, avec ce qui a été préparé, quoi.
Ah bah, justement, moi, je suis oui, pardon.
Non, je disais, après moi, mon travail de préparation se fait avec quelques réunions en amont avec la production et ensuite une préparation de recherche de documentation, comme vous l'avez fait très très bien, parce que vous avez été très très bien informé sur plein de choses. Voilà, c'est, pour moi, se documenter sur une destination, c'est indispensable en fait, parce que même si on joue un peu les candides un peu Dans l'émission, on essaie justement pour poser des questions aux gens, pour que les gens nous racontent l'histoire de leur pays ou leur propre histoire. Pardon. On a besoin, nous, d'être presque omniscients sur,
exactement,
sur tout ça avant. Donc, moi, c'est, par exemple, si je vais dans un pays, je vais forcément prendre un guide et lire tout le résumé de l'histoire du pays de moins 4 millions d'années à 2020, quoi. Parce que c'est indispensable pour comprendre ce qui se passe, pourquoi les gens vivent comme ça, et ce qui s'est passé dans leur histoire, l'histoire de leur pays. Et puis c'est aussi nécessaire quand on a quelqu'un qui nous dit bah oui, la révolution, ça nous a quand même fait du mal. Bah si moi je sais pas quand c'était, ce qui s'est passé, etc.
Totalement.
C'est à moi de dire ah oui, tu parles de la révolution, quand il s'est passé ça et ça et tout ça, oui c'est ça, d'accord. Hop, juste pour éclairer le téléspectateur qui n'a pas forcément tout le temps les clés. Et puis ça, pour moi ça paraît indispensable en fait, tout ça, donc de savoir ce qui s'est passé dans le pays, mais aussi de connaître les coutumes, les usages, ce qu'on, d'un point de vue de, je sais pas, de ce qu'on cultive dans un pays, de ce qu'on peut voir aussi, évidemment, de tous les sites à voir, des différents secteurs finalement d'activité d'un pays pour essayer de comprendre aussi comment fonctionne ce pays, et donc de mieux comprendre les gens avec qui on est.
Non, c'était hyper intéressant. Bah, c'était la question que j'allais vous poser, en fait, si vous préparez les interviews. Moi, je suis du genre à extrêmement préparer les interviews, peut-être parfois trop. Et c'est vrai que je me doute bien, hein, que vous préparez, mais c'est vrai que ça fait très naturel à l'écran. Et je me demandais si vous, bah, vous prépariez ou si vous laissiez quand même place à l'impro, et si de manière générale, en fait, les journalistes aussi dans l'émission et dans d'autres émissions préparaient, en fait, vraiment mot pour mot, quoi.
Alors moi je prépare pas mot pour mot, ouais, parce que comme je le disais tout à l'heure, ouais, je suis plutôt un instinctif.
Ouais.
En fait, j'ai besoin d'être entre guillemets omniscient, de bien connaître mon,
voilà,
sujet, de m'être bien documenté, donc de me sentir à l'aise dans le sujet que je vais aborder, mais j'écris aucune question. Ça,
voilà,
c'est pas possible pour moi.
D'accord.
Parce que je sais pas à quel moment je posais telle question. J'ai pas envie d'apprendre par cœur. En plus,
ouais,
j'ai une mémoire poisson rouge. Donc, ce serait totalement inconfortable pour moi de pouvoir avoir des questions que j'aurais apprises et que je dispense comme ça. Parce que pour moi, on est déconnecté, en fait. Quand on lit un papier comme un chat, on se déconnecte forcément du lien avec les gens. Et l'idée, c'est que la personne sente qu'on est là tous les deux à se promener et à vivre des choses et pas avec un mec en train de lire sa feuille toutes les 10 minutes. Off caméra avant de reprendre la séquence. Ça, non, c'est pas mon mode de fonctionnement, j'ai rien contre, hein. C'est une question de confort personnel et je me sens plus libre comme ça. Il y en a qui ont besoin d'avoir leur papier pour se sentir à l'aise et se sentir en sécurité. Moi, c'est le contraire. Si je sais que j'ai bien bossé avant, je me sens libre et donc plus en sécurité, bizarrement, à ne pas avoir de questions écrites.
Pour terminer sur cette thématique de carrière, j'ai une question qui est très simple. Qu'est-ce qu'un bon journaliste pour vous ?
Ah là là, un bon journaliste. Pour moi, un bon journaliste, c'est quelqu'un, comme on le disait, qui va bien se documenter, qui va bien sourcer ce qu'il va devoir raconter, et qui va le faire, qui va multisourcer ce qu'il va raconter. Ça, c'est le premier point. Bien connaître son sujet, bien avoir travaillé en amont, c'est aussi une déontologie, c'est aussi faire son métier avec des méthodes qui sont honnêtes et respectables. C'est très important. Respecter aussi la personne qu'on va avoir en face de nous. Donc s'intéresser à son parcours, comme vous l'avez fait à mon égard, et c'est très appréciable. C'est toutes ces choses-là, le respect de la personne, savoir l'écouter, savoir aussi pour moi la mettre en avant. Après, je parle de mon métier d'échappée belle, mais
ouais, bien sûr.
Si on parle du news, c'est un peu différent. Essayer vraiment d'être le plus objectif possible. C'est pas toujours simple, mais voilà, de respecter au maximum les équités de point de vue. Ça aussi, c'est très important, je pense, dans notre métier. Et puis c'est une force de travail. C'est aussi un bon journaliste, c'est quelqu'un qui va avoir aussi une imagination pour raconter une histoire. Quand je dis une histoire, ça peut être une histoire de partir faire un reportage d'actualité. C'est raconter une histoire. Qu'est-ce qu'on met comme élément? Comment on raconte la petite histoire qu'on va mettre dans le reportage? pour le JT ou pour Échappée Belle, c'est pareil. Il va avoir un peu d'imagination pour savoir raconter ça de manière habile et savoir aussi intéresser les gens et mettre en valeur aussi en images, puisque moi je fais un métier de télé, donc c'est les images qui sont proposées, c'est de faire en sorte que tout soit réussi, de qualité, voilà, principalement en fait, pour moi c'est ça. Et avoir des valeurs aussi par rapport à voilà certains sujets, avoir un minimum aussi quand même de sens critique.
Oui, bien sûr. Avant de terminer cette interview et de poser les petites questions que je pose toujours à la fin de chaque interview, j'ai envie d'aborder une dernière partie qui est la partie un peu plus développement personnel, car mon podcast s'intéresse à cette thématique par rapport à la sortie de zone de confort. Est-ce que vous diriez qu'il faut avoir confiance en soi pour passer à la télé, pour être devant la caméra tout simplement? Et quel rapport à soi faut-il pour être devant la caméra?
Oui, je pense qu'il faut un minimum de confiance. C'est assez amusant d'ailleurs parce que moi, voilà, j'ai une étiquette d'animateur télé évidemment puisque c'est mon métier, mais je ne suis pas un bon animateur télé pour faire du plateau. Voilà, c'est un exercice pour moi. J'ai pas suffisamment de liberté, c'est trop contraint. Ça me stresse. Je suis pas du tout à l'aise en fait. Et de maîtriser, d'être libre, de pas avoir un timing, de pas avoir des lancements, des trucs à, c'est pas du tout mon truc. Donc ça, par exemple, j'en ai fait pas mal, mais je suis jamais à l'aise avec ça. Et je me suis d'ailleurs souvent obligé à accepter des propositions comme ça pour justement essayer de travailler là-dessus et d'avancer et de sortir de ma zone de confort vraiment pour essayer d'apprendre. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. C'est Picasso qui disait j'essaie toujours de ne pas faire. C'était comment cette citation ? Oui, non, c'est Picasso qui disait j'essaie toujours de faire ce que je ne sais pas faire, et c'est ainsi que j'apprends à le faire. Et je trouve que ça parle assez bien, en fait. Oui. Donc sortir de sa zone de confort, dans mon parcours, je l'ai fait plein de fois. Et par rapport à ma confiance. Je pense qu'elle grandit au fur et à mesure où on fait son métier, on devient plus à l'aise, et puis on, l'expérience faisant, on est ensuite, on va dire, déconnecté de cette pression, de ce stress que pourrait être ce manque de confiance. Là, je suis pas quelqu'un qui a une énorme confiance en lui non plus, mais voilà, je sais qu'il y a des choses que je sais faire, que je fais depuis longtemps, donc j'ai pas de problème.
Oui.
À les reproduire et à continuer à les faire. Après, par rapport à mon image, en fait, je sais pas comment expliquer ça. J'ai pas besoin de mettre ma tronche partout sur les réseaux, tout ça. J'ai pas forcément besoin de ça. D'ailleurs, je me regarde assez peu dans l'émission.
Ah oui.
Je suis assez rarement l'émission. Parce que j'aime pas particulièrement me regarder, en fait. Donc je suis pas vraiment très nombriliste. En même temps, voilà, j'essaie de faire aussi en sorte d'être le plus à mon avantage quand j'ai besoin de me montrer et d'être, j'allais dire, le plus naturel possible, le plus ce que je suis, pour pas donner une image de ce que je ne suis pas, en fait. Enfin, je vois pas trop l'intérêt. Donc, j'ai pas un rapport, en tout cas, à la notoriété, à l'image énorme. Et même si c'est très appréciable que les gens vous arrêtent dans la rue et vous dites des petits mots gentils, on adore l'émission, c'est super, machin, continuez. Ça fait toujours plaisir. En plus, la plupart du temps, les gens complimentent surtout l'émission. Donc, en fait, il faut être aussi suffisamment humble et pas prendre les compliments en disant, oui, je suis formidable. Non, c'est l'émission qui est formidable et on est un des artisans avec tous ceux qu'on ne voit pas, et c'est aussi à eux, et surtout à eux, que reviennent ces compliments. Donc il faut savoir aussi rester à sa place et plutôt les pieds sur terre par rapport à ça. Donc je suis quelqu'un d'assez normal, en fait. Je pense être quelqu'un tout à fait normal.
Et si on parle de stress, de trac, moi personnellement j'ai un peu le trac avant, pas toutes les interviews, mais par exemple la nôtre, j'avais un peu le trac. Est-ce que vous avez le trac avant les émissions? Et si oui, quels sont vos conseils pour un peu gérer ce stress?
Alors sur Échappée Belle, non, je n'ai pas le trac. parce que en fait, La chose qui pourrait, moi, me donner du trac, c'est le côté direct, par exemple.
Ouais.
Faire un direct, c'est quelque chose qui est sous contrainte de temps. C'est quelque chose où on n'a pas le droit à l'erreur, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui peut me stresser, me donner le trac. Voilà. J'ai fait du plateau, j'ai fait de l'antenne en direct, j'ai fait des choses comme ça. Pas du tout à l'aise, pas du tout à l'aise pour faire ça. Peut-être que si c'était à refaire maintenant, ce serait peut-être différent, mais je sais que je suis pas, je me sens pas du tout à ma place en fait quand je fais ça en direct, parce que je me sens sous contrainte et j'ai besoin vraiment d'avoir un minimum de liberté en fait.
Oui.
Et alors, quelquefois, je ne l'autorise pas forcément toujours cette liberté quand je fais en plateau, quand je fais des choses comme ça. Mais globalement, je pense que voilà, si c'était un des points sur lesquels je devais travailler le plus, ce serait ça. Mais je ne suis pas confronté régulièrement, donc c'est pas un problème. Après, il faudra faire des interviews, télé, radio et autres. On en fait tellement que ça aussi, c'est
Oui.
devenu un peu routinier. Mais donc j'ai moins de problèmes à faire des directs radio, tout ça. Mais voilà, je sais qu'en plateau télé, c'est pas quelque chose
Et
dans lequel je serais très à l'aise.
vous aviez des méthodes du coup pour gérer un peu votre stress ou pas particulièrement? Vous y alliez et
J'ai
puis.
tout essayé j'ai tout essayé d'apprendre par cœur mes fiches, de respirer, de beaucoup faire d'essayer de faire beaucoup de respiration, mais c'est en fait la sensation intérieure, elle est tellement bouillonnante qu'elle prend vraiment le dessus sur le reste. Et j'avais l'impression d'être déconnecté de mon corps en fait à un certain moment. Tellement le stress était prenant, je me souviens, ça remonte à quelques années quand même, mais voilà, j'ai des moments comme ça de direct où
Oui, de
j'étais
flou
complètement hors de
total.
moi, je sais pas du tout ce qui s'est passé, c'était tout à fait étrange, quoi.
Oui.
Donc, oui, respirer, oui, bien préparer, ce qui permet, quand on se sent bien préparé, eh bien, ça enlève déjà le stress de se dire, bah, je vais pas être à la hauteur de ce qu'on me demande, puisque j'ai bien préparé, ça devrait le faire. Et puis après, moi, je pense que respirer, c'est une bonne chose. Prendre le temps de respirer, de se décontracter un petit peu avant quelque chose comme ça.
Et justement, ça rejoint la question, mais vous êtes, vous, énormément dans l'action quand même. Voilà, vous travaillez beaucoup. Est-ce que vous avez des rituels pour prendre du recul entre les tournages, pour avoir des moments de pause? Qu'est-ce que vous faites en fait pour vous déconnecter entre deux tournages?
Alors, quand je rentre de tournage, donc j'ai été 10-12 jours en dehors de chez moi, quand je rentre chez moi, je ferme presque les verrous et je me reconnecte à ma bulle, quoi. Je me ressource chez moi, j'essaie de voir les gens que j'aime aussi, évidemment. Mais je vais avoir une phase tampon, on va dire, de 1, 2, 3 jours, où je pourrais très bien rester chez moi sans bouger, en fait. Cette reconnexion à mon environnement, me reposer, faire ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Donc à nouveau ce côté pas de contrainte, ça c'est réparateur en fait. C'est pas juste du sommeil. Pour moi la récupération elle est aussi vachement mentale et c'est de faire des choses qui nous font du bien et qui nous font plaisir, etc. Donc c'est se mater une série, c'est aller au ciné, c'est faire des choses comme ça, mais je peux rester, ouais, 48 heures chez moi sans sortir, en fait. Voilà, c'est cette phase tampon, cette zone tampon dont j'ai besoin pour pouvoir me reconnecter à moi-même, pouvoir peut-être aussi digérer tout ce que j'ai vécu, infuser, laisser s'infuser toutes ces rencontres, tous ces moments, toutes ces émotions, peut-être qu'elles redescendent et qu'elle se grave à l'intérieur, puisque sur le vif, on n'a pas le temps forcément d'en prendre conscience. Peut-être qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte.
D'ailleurs, j'ai lu que vous aviez deux enfants, enfin
Oui.
une fille en tout cas. Vous parlez de votre fille dans
Une fille et
quelques
un garçon.
émissions. Ouais, vous avez...
Oui.
comment vous gérez l'équilibre vie pro-vie perso avec votre métier?
Ça n'a pas toujours été simple, d'autant que moi je suis divorcé, donc
Ah oui.
j'avais mes enfants un week-end sur deux pendant des années. Donc il fallait que ça se conjugue avec mon travail. Donc les 2 premières années d'Échappée Belle, j'ai pas pu vraiment tenir ce rythme-là. Donc au bout de 2 ans, comme la prod n'arrivait pas non plus à faire en sorte de me ménager ces week-ends-là, je leur ai dit, écoutez, soit j'arrête, soit vous prenez une troisième personne pour nous seconder. et j'aurai moins d'émissions et donc je pourrai voir mes enfants quand j'en ai la possibilité en fait. Et du coup, c'est comme ça qu'est venu un troisième animateur.
Puis un quatrième
ensuite pour les mêmes raisons. Voilà, d'autres moments, voilà, il y avait des petites difficultés au sein de la famille. Il fallait que je sois plus présent pour mes enfants. Donc, j'ai décidé de réduire à nouveau et une quatrième personne est venue. Et maintenant, on a à nouveau trois. Mais donc, ça n'a pas toujours été simple, mais en même temps, voilà, c'est un rythme à prendre. Ça pouvait tomber bien si je les avais le week-end. C'était de partir le lundi, de revenir le vendredi. La semaine suivante, ben, ça collait impeccable. Quand je revenais, je les avais à nouveau. Donc, ça, c'était plutôt bien. J'étais pas toujours dans une grande forme physique pour pouvoir en profiter au maximum, mais bon, c'était au moins possible de ne pas perdre ces moments-là avec eux, en tout cas.
Vos enfants, ils veulent devenir journalistes ou ça les intéresse pas?
Non, pas journaliste. Ma fille est plus créative, donc elle est plus comme moi.
Oui.
Voilà, elle bouillonne d'idées. Elle est plus dans la création. Mon fils, un petit peu moins. Plus dans les choses plus concrètes, je pense, et moins dans l'imaginaire. Donc, non, ça fait pas partie de leurs intérêts, en tout cas. Pour le moment, je ne sais pas ce que ça vient après, la vie est longue.
Oui. Vos futurs projets, si vous en avez?
Là, j'ai des projets. Donc là, je suis en train de travailler sur des podcasts pour une marque que j'anime. Je suis en train d'écrire un podcast pour moi, pouvoir en animer un aussi.
Sur le voyage ou non?
Non, pas sur le voyage. Non, pas sur le voyage. Ce sera plus sur les parcours de vie, plus sur l'humain, plus sur qui se cache derrière cette personne en fait. Si je pouvais faire ça avec des personnalités, ce serait chouette. Parce que tu es connu ou pas connu, enfin en tout cas des gens qui ont un parcours de vie très dense, très riche. Oui. Ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, j'ai toujours des petites émissions dans les tuyaux, donc j'espère peut-être un jour arriver à en mettre une à l'antenne. J'interviens toujours aussi dans une école de journalisme, l'EFJ, où je suis un intervenant à l'année pour eux. Donc voilà, je les accompagne sur des projets, sur leur travail, je fais des masterclass, je fais du recrutement, je suis jury pour les examens notamment. Ça me plaît bien, la transmission m'intéresse et c'est assez chouette aussi. Voilà. De pouvoir redonner ce qu'on nous a nous-mêmes offert à un certain moment de notre parcours. Et puis, une expo photo, j'aimerais bien en faire une seconde, parce que j'avais plutôt bien aimé faire ma première expo, donc peut-être relancer ça avec de nouvelles photos et repartir un petit peu exposer tout ça. Voilà, grosso modo, dans un futur assez proche, ce qu'il y a dans les tuyaux.
Ça fait un beau programme. On va finir par des petites questions que je pose toujours en fin d'interview. C'est des questions, voilà, l'idée c'est d'y répondre assez rapidement. Les questions que l'on vous pose le plus, que ce soit sur dans votre vie online ou hors-line, ou hors-ligne, pardon.
Oh ben, quel est ton voyage préféré? Quel est le pays que tu as préféré? Ça, je crois que c'est la question.
Et votre réponse, du coup?
Je dis qu'il n'y en a pas un, il y en a plein, pour des raisons différentes. Ça va dépendre, soit parce que le pays est sublime, magnifique, de par ses paysages, soit parce que j'ai aimé un pays, parce que j'y ai fait des rencontres hyper fortes et que ça m'a marqué profondément, parce que voilà, j'ai très varié en fait. J'ai pas un pays que je mettrais en top liste nécessairement. Ça dépend des critères.
Vos citations préférées?
Ah, ma citation préférée. J'aime bien celle de Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Parce qu'en fait, pas sur la notion de gagner, mais sur la notion d'apprendre quand on échoue et d'apprendre de ses erreurs. Ça me paraît quelque chose d'indispensable. Et puis j'aime bien aussi Ah oui, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. Ça, je crois que c'est Sénèque qui disait ça. J'aime bien cette idée-là, d'être capable de composer, quelles que soient les circonstances, d'être capable d'être là et de surmonter les choses de la vie dans les bons et les mauvais moments, et dans les mauvais moments, d'être capable justement de ne pas se laisser engouffrer et asphyxier par les choses, au contraire, d'essayer d'y mettre peut-être une légèreté ou d'y mettre quelque chose qui permette que la difficulté soit moins compliquée à surmonter et à supporter.
Vos livres préférés?
Ah ben, Invitation au voyage de Chappé Belle. dans tout les bonnes librairies de France et de Navarre, évidemment. Il est sorti il y a quelques mois. Vous pourrez le retrouver. Ce sont nos récits de voyage, récits de tournage avec les équipes qui nous accompagnent. On essaie de raconter les coulisses de tout ça. Et ouais, c'est un chouette bouquin.
Vous l'avez écrit pendant le Covid, je crois, non?
On l'a écrit pendant le Covid avec, avec Ismaël et Sophie. Et c'était assez chouette de se replonger dans ces souvenirs-là, voilà, d'y mettre quelques photos, de se rappeler des bons souvenirs et de se raconter aussi, parce qu'on raconte aussi, voilà, notre enfance, notre rapport au voyage et à la découverte. Donc c'était plutôt intéressant. Voilà, donc oui, très objectivement, mon livre préféré, c'est Invitation au voyage, en attendant le prochain, évidemment.
On le notera dans les notes de l'épisode. Vos rencontres qui vous ont le plus marqué? Bon, c'est peut-être une question compliquée, mais une rencontre qui vous a marqué.
Il y en a tellement, c'est compliqué, oui. Tellement compliqué de faire un choix. Ça a pu être de rencontrer des artistes pour qui j'avais une admiration extraordinaire, donc... quand j'ai pu aller interviewer Claude Nougaro chez lui, le suivre sur des concerts et l'accompagner quelques jours comme ça, ça c'était pour moi des moments forts. C'est un artiste qui me touche beaucoup, et de pouvoir le rencontrer, de passer du temps avec lui, c'est pas juste faire une interview, c'était voilà, être chez lui, passer du temps, etc., un jour comme ça, ou le chanteur de Depeche Mode, mon groupe préféré, Dave Gahan, de pouvoir faire un jour son interview, qui était d'ailleurs tout à fait raté, mais pas tellement j'étais
stressé.
Enfin, j'étais là sans être là.
Impressionné.
Mais ouais, avec un angle approximatif à l'époque en plus. Mais voilà, des moments comme ça, mais ça peut être aussi, des très beaux moments émouvants de rencontres au bout du monde, voilà, au Vietnam, je sais pas, au Pérou, dans plein de pays où on croise des gens, il se passe un moment incroyable d'émotion, de partage, quelquefois même sans forcément parler la même langue. Ouais, il y a des moments comme ça qui reviennent, qui sont extrêmement émouvants. Donc, des rencontres, j'en ai fait plein, quoi. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens, connus et pas connus. Et donc, en choisir une serait compliqué. Mais là, ça, ouais, j'ai...
D'accord. Un échec que vous auriez vécu et que vous auriez surmonté, du coup.
Un échec que j'aurais vécu et que j'aurais surmonté. On en parlait tout à l'heure, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire quelquefois des émissions à l'antenne comme ça sur du plateau télé. Je sais pas que je les ai surmontées, mais je les ai j'ai essayé en tout cas à chaque fois de me redonner la possibilité de recommencer si l'opportunité se représentait, pour pouvoir à nouveau insister et ne pas rester sur quelque chose qui n'était pas satisfaisant pour moi, d'essayer d'avancer, de progresser et de continuer. Donc ce serait plutôt par rapport à ça, je pense. Ouais, principalement ça.
Vos routines pour rester bien physiquement et mentalement?
Quand je pouvais à nouveau faire du sport, j'allais à la salle, puisque en tant que Parisien, voilà. Là, j'essaie de faire du vélo. J'ai un vélo... à la maison, donc j'essaie de me déplacer à Paris en vélo maintenant. Et puis, ouais, quand je peux aller à la salle, j'essaie de m'entretenir, chose qui n'a pas été le cas depuis des mois. Et puis, j'ai un bon coup de fourchette, donc ça se voit assez vite. Je suis pas vraiment physiquement affûté, mais ouais, c'est plutôt ça. J'aime bien faire des activités, en tout cas en tournage, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et être en nature aussi, ça c'est quelque chose qui, dès que je le peux, voilà, j'essaie de m'échapper. J'ai voilà, je fais des exercices, voilà, d'abdos, des choses comme ça de temps en temps, ponctuellement, même en tournage, sur certaines des petites routines comme ça, quotidiennes de 15 minutes, mais c'est pas toujours possible.
D'accord. Et ma question rituelle du podcast, quelle est votre définition du risque et selon vous, les risques nécessaires pour vivre pleinement?
Le risque, c'est d'aller et d'oser faire quelque chose qui pourrait nous effrayer, qui pourrait ouais, nous faire peur, d'oser prendre le risque. Pour moi, le risque, c'est pas quelque chose qui doit rester à distance. Alors, je parle pas du risque physique et de se mettre en danger hein, physiquement, hein. Mais je parle du risque dans la vie. On a un risque de faire des choix. C'est choisir, risquer, c'est oser. Et ça me paraît être une chose indispensable pour avancer, savoir prendre des risques, savoir sortir, on disait tout à l'heure, de sa zone de confort et d'essayer autre chose. Je crois que ma curiosité bouillonnante fait que j'ai souvent voilà osé franchir des caps ou des trucs qui me faisaient peur au départ. Et je trouve que c'est la satisfaction aussi de réussir à, une fois avoir pris ce risque, à apprécier le moment ou la chose qui s'ensuit, si ça se passe bien. C'est aussi important, ça donne de la confiance en soi, ça peut être aussi une émulation très importante. Après, le risque, ouais.
Très bien,
Je sais pas si,
ça me
ouais, je sais
convient.
pas si je définis bien le mot risque
Ouais, mais
d'ailleurs, mais.
c'est intéressant d'avoir justement votre version, puisque je demande à tous mes invités, comme ça me permet d'après de comparer. Bah, merci beaucoup, Jérôme, pour cette interview.
Merci Laura, merci à toi.
Et puis à bientôt.
À très vite.
Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media. Pour découvrir les coulisses du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.